Where you coming from? And where you going to? The cavalry ain't dead, they just keep riding in their unmarked cars and federal suits. And they ain't riding to your rescue. Oh no. Now he keeps looking around for someone to say, I am the truth and this is the way. He has more questions than stars in the sky, but he can't look himself in the eye. 'Cause the grass looks greener.
On dirait que l'herbe est plus verte dans le petit carré de l'homme blanc à côté. En tout cas, c'est pas moi qui le dis, c'est donc cette chanteuse qui s'appelle Elisabeth Hill. J'ai la joie et l'honneur d'être au téléphone avec Guy l'Américain. Comment ça va, Guy ?
Ça va très très bien. Bonjour tous les auditeurs de Sweet Home Chicago.
Merci pour eux. Je te souhaite déjà, avant que j'oublie, le bonjour de la part de Xavier Boulanger qui a intervenu à l'antenne il y a une demi-heure.
Super.
Et puis, voilà, on est en plein dans le vif du sujet. On est en début de deuxième heure de ce Sweet Home Chicago. Et je voulais absolument passer par une interview autour de ce triple CD qui n'est plus un projet, qui est une réalité, qui est sortie, qu'on trouve un petit peu partout maintenant. Indian Reservation Blues and More. J'avais eu le privilège d'en écouter quelques bribes il y a quelques temps et puis également de le découvrir fin janvier grâce à l'ami Francis Ratto. Maintenant, ça y est, il est en distribution. C'est une grande aventure, dis-moi Guy, ce triple album.
C'est trois ans de travail. Mais c'est très très intéressant de savoir, enfin très surprenant de savoir comment ça a démarré. C'est-à-dire que ça a démarré dans le petit bureau de Philippe Langlois, qui est le boss de Dixie Frog, à Rotteuil, là-bas en Picardie, avec un ami qui s'appelle Jean-Pierre Bruno. Et qui lui est monteur sur les images, et puis on parlait de mes voyages, du fait que j'étais tout le temps en territoire indien, et Jean-Pierre Bonneau dit, mais pourquoi tu prendrais pas une caméra et tu irais pas un peu filmer, on fera un teaser et on préparerait peut-être quelque chose pour proposer éventuellement un film à des télévisions. Et je dis à Jean-Pierre, mais vous êtes des fous, parce que moi je sais pas prendre une photo, quand je photographie un lac, on dirait une goutte d'eau, ça intéressera personne. Ils m'ont dit, mais si, je suis sûr qu'avec les contacts que tu as, les gens que tu connais là-bas, il y aurait quelque chose à faire. Finalement, ils ont acheté une caméra. Philippe Langlois a acheté une caméra. Je suis parti sur la route. Et puis, après avoir rencontré pas mal de musiciens, puis Rafé, bien sûr, s'est greffé sur le projet, a donné mon contact à plein de gens. J'ai rencontré ensuite Hélène Bambery du côté canadien. Et à un moment, je me suis retrouvé avec 150 CD sur le périple. Et je me suis dit, j'ai du film, bien sûr, mais si on n'arrive pas à aboutir avec le film, peut-être que ça mériterait une compilation. Et Philippe Langlois a dit banco, et puis voilà.
Et donc, l'idée d'une compilation avec plus de 30 artistes est née. C'est né d'une discussion toute simple par rapport à ta passion pour les Indiens d'Amérique. Qu'est-ce qui te fait avancer, Guy, dans la vie en dehors de ça ? Qu'est-ce qui te fait d'abord ? Qu'est-ce qui motivait ta passion pour les natifs amérindiens ?
En fait, c'est même au-delà des natifs amérindiens, c'est-à-dire que j'ai une passion pour déjà le voyage, la route, et j'ai une passion pour l'Amérique.
Oui.
Et ça me courrouce à chaque fois d'entendre des gens parler de l'Amérique alors qu'ils la connaissent pas. Donc j'avais commencé à essayer de montrer la vraie Amérique, celle, l'Amérique profonde avec Lost and Last Survivors de Music Maker. Et ensuite je me suis dit, puisqu'on a montré un peu l'Amérique des Blacks qui jouent encore du blues et qui existent là-bas et qui sont vraiment le Keeper of the Flame, qui maintiennent le flambeau, il faut montrer maintenant aussi l'Amérique des Indiens et montrer aux gens que les Indiens ne sont pas des gens qui vivent dans des des tipis avec des plumes.
Mais voilà, quel est le folklore?
C'est simplement quand il y a des cérémonies, des pow-wow, et que il y a aujourd'hui des Indiens qui font du hip-hop, qui sont lawyers, qui viennent passer juste à l'antenne Elizabeth Hill. Elizabeth Hill, quand tu regardes dans le livret, tu vois son visage, c'est très difficile de l'identifier comme étant Iroquois. On ne sait pas vraiment qu'elle est indienne. Après, quand on parle avec elle et quand on écoute sa musique, bien sûr, on s'en rend compte. Mais bon, sortir un petit peu de tous ces clichés. Donc, si tu veux, plus qu'un homme de musique, je me ressens vraiment comme un voyageur et j'aime bien montrer ce qui se passe vraiment plutôt que ce qu'on raconte. Voilà.
Qu'est-ce que ça, c'est tout à fait intéressant, ça, Guy. Je voudrais savoir quel est dans ton esprit ce que pensent les Français à propos des Amérindiens. Enfin, on dit toujours les Indiens d'Amérique, les Indiens, bien sûr. C'était la grosse erreur de Christophe Colomb. D'ailleurs, j'ai lu quelque part que les Indiens combattent le terrorisme depuis 1492. Hein, c'est bien
ça. Oui, c'est l'arrivée de. Hein, c'est effectivement l'arrivée des colons qui...
Voilà, enfin, historiquement, parce qu'on peut remonter à Éric le Rouge en 999,
voilà,
il y a
eu
aussi des choses. Mais par rapport à la question, dans ton esprit, que pensent les Français, hein, puisqu'il est question de sortir ce disque-là principalement en France pour l'instant, que pensent les Français du folklore amérindien?
Ben, je pense qu'en fait, si tu veux, les Français n'ont pas trop d'idées, parce que beaucoup de gens, malheureusement, qui se rendent aux États-Unis, se rendent aux États-Unis dans des voyages organisés. Donc, ils vont se retrouver à Monument Valley, à faire un tour de Monument Valley à cheval, avec un guide indien. Et puis, ils vont penser que c'est vraiment ça. Et c'est la population indienne, déjà, elle s'étend pas simplement sur les States, elle s'étend sur tout le continent nord-américain, voire sud-américain, que j'ai pas encore visité, et australien également. Et c'est extrêmement vaste, c'est-à-dire que tu vas passer dans des endroits où il y a des casinos et où effectivement ça brille et ça fonctionne bien et où tout le monde roule avec des pick-up qui sont tout neufs, mais quand tu arrives à Pine Ridge ou quand tu arrives à Wolf Point à la frontière du Montana ou quand tu arrives dans des endroits comme Browning en territoire Blackfoot par exemple, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, les mômes sont déglingués avec du crystal meth à $20, l'alcool est présent, la violence est présente. Donc si tu veux, les peuples indiens et les tribes indiennes sont aussi bigarrées et diverses que le triple album. C'est-à-dire que tu as du hip-hop, tu as de la country, du blues, mais chaque endroit est différent et chaque tribe a son caractère, en fait.
C'est là où je voulais en arriver. C'est vrai qu'artistiquement parlant, quand on écoute l'intégralité des trois disques, ben, on s'aperçoit effectivement que le mot blues est largement pris au sens le plus large possible. Et c'est vrai que Indian Reservation Blues and More, moi ça me paraissait, c'est surtout le and more que je retiens là-dedans.
Ouais, c'est ce qui est plus important.
On va parler distribution tout à l'heure, Guy, à propos de cet album qui vient de sortir. Mais avant, j'aurais voulu savoir, qu'est-ce qui a présidé, dis-moi, au choix des artistes? Parce que tu as dit tout à l'heure, tu as reçu plus de 150 CD, donc ça veut dire que c'est des gens qui avaient déjà enregistré, etc. D'abord, est-ce que les gens qui figurent sur ce disque ont enregistré exprès pour le disque, ou est-ce que tu as repris des morceaux précédemment enregistrés?
Non, en fait, tout s'est passé, si tu veux, j'allais d'endroit en endroit.
Oui.
C'est-à-dire que j'arrivais dans des endroits, et tout s'est enchaîné. Une histoire à propos d'Hélène Bombery, qui est un des agents essentiels sur tous les gros artistes First Nation au Canada.
Oui.
Moi j'étais à Seattle, j'étais avec Purafé, je devais repartir de Seattle pour redescendre sur Albuquerque, Nouveau-Mexique. Et finalement, on n'arrivait pas à joindre Hélène Bombery qui avait changé de téléphone. Et je venais juste de filmer Leilani, qui est la chanteuse R&B qui est dans l'album. Et je venais de quitter Leilani, on reçoit un coup de fil sur le portable de Purafé, c'est Hélène Bombery qui nous avait finalement retrouvés, et qui me dit, bah écoute, voilà, je suis de l'autre côté de la frontière, est-ce que tu peux être à Vancouver dans 3 heures? Et tout a été comme ça, sans arrêt, c'est-à-dire, j'arrive à Vancouver, il y avait un nouvel artiste, et y a, par exemple, Leilani Michel Finot, dont je viens de parler à l'instant, ce qui est dans l'album, mais qui a été remixé, puisque l'album est sorti après avoir fait 5 mix différents, c'est un CDR, c'est quelque chose qu'elle a, c'est une maquette. Quand tu entends également Starnaya, c'est une maquette. Tu as des gens comme Keith Sekola, bon là l'album est produit par Derek Miller, c'est plus abouti, mais il y a des gens qui sont pas sous contrat, qui ont pas de maison de disques, qui ont pas d'agent, qui ont pas de... Il y a des gens qui ont déjà un peu plus pignon sur rue.
C'est donc le terme compilation pris au pied de la lettre. Quand on dit compilation, ça veut dire on collecte et puis on essaie, on va dire, pas de déstructurer, mais au moins de masteriser, je sais pas, il y a quand même une espèce de continuité, même si au niveau des styles on navigue tu l'as dit, du rap au hip-hop, voire au blues rock, très 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 hard, hein, voire à la country music un petit peu comme tout à l'heure. Mais j'ai quand même l'impression, je ne sais pas si c'est mes oreilles qui sont déjà déformées, mais il y a quand même une espèce d'unité de son malgré toutes les sources différentes quand même.
Ah oui, bien sûr. Bien sûr, parce que quand t'écoutes Elizabeth Hill, cette chanson country, elle aurait pu être faite par 1 million de personnes. Mais quand tu rentres dans l'histoire de cette chanson, quand tu écoutes bien la façon dont elle le chante, oui, ça peut être chanté que par un Indien, hein, ou par une Indienne. Derek Miller, ça bouge. Moi, j'ai vu sur scène Derek Miller, on dirait Motorhead sur scène, Power Trio.
On a écouté Derek Miller il n'y a pas très longtemps.
On dirait George Thorogood, première période. Mais bon, c'est pas que du blues rock, c'est du blues rock. C'est typiquement Iroquois, quoi. Iroquois Confederacy, il a la rage des Iroquois, c'est un guerrier, il a ses tourments intérieurs, c'est une espèce de Calvin Russell énervé, tu vois, chacun de ces artistes, si tu rentres vraiment dans le son et dans la façon dont ils expriment leur histoire, oui, à travers chaque morceau, c'est typiquement indien. Il y a quelque chose d'indien. Et c'est pour ça que chaque CD, en fait, les titres sont mixés. Chaque CD est une histoire, en fait.
Qu'est-ce qui fait la différence entre ce qui est typiquement indien et ce qui est typiquement black, comme par exemple les albums Music Maker que tu as produits pour Dixie Frog?
Eh ben, en fait, il y a un lien, puisque bon, je présume que tu connais l'histoire de l'Underground Railroad, c'est-à-dire que les Indiens ont cette théorie qui me paraît quand même assez possible, hein, assez plausible, que quand les Blacks ont cherché à s'échapper des plantations, ils sont passés par les réserves indiennes parce que c'était quand même l'endroit où effectivement on pouvait pas les trouver. Ouais. Et là, ils ont retrouvé les tambours antiques des peuples indiens et le blues serait vraiment né de ce mix-up des tambours indiens traditionnels et de cette espèce de spleen des musiciens blacks. Mais par exemple, quand tu écoutes des gens comme Little Pink Anderson, oui, et ben Little Pink Anderson, le fait d'avoir vécu beaucoup à la frontière du Dakota du Nord, dans certains de ses morceaux, il a capté cette influence indienne. Il y a quelque chose, c'est difficile à exprimer parce qu'on est plus dans le sentiment. C'est plutôt une espèce de fierté mêlée de blessure. Voilà.
Très bien défini, Guy. Alors franchement, on a affaire à quelqu'un qui sait de quoi il parle, hein, ça c'est indéniable, je le savais déjà. Guy, on va rentrer un petit peu plus avant dans la musique, on va écouter un nouvel extrait, toujours dans ce CD numéro 1, quelque chose assez court, je sais pas si je vais le prononcer correctement, Art Napoléon.
Oui, bien sûr. Ah, oui.
Cree Sunrise, on se retrouve juste derrière, d'accord?
Ok.
À tout de suite.
The sky.
Ça, c'est le genre de choses. Je pense que le public français va d'abord penser entendre en écoutant ce disque. Et il y en a, hein, Guy, toujours au téléphone.
Oui.
Ah. Alors, c'était dans Sweet Home Chicago, donc Art Napoleon, le titre Cree Sunrise. Ça rappelle plus, on va dire, le folklore indien tel que les Européens, on va dire, se le représentent.
Oui, Art Napoleon était vraiment motivé. Ça, c'est le nouvel album d'Art Napoleon qui vient de sortir au Canada.
Oui.
On a été piocher quelques titres dedans parce que l'album est vraiment magnifique. Et bon, Art Napoleon, il était très intéressé là pour revenir. Il a fait pas mal d'albums où il chantait en anglais. Et là, il était intéressé pour reprendre des thèmes traditionnels et chanter en langue traditionnelle crie ou autre dialecte. C'est une partie aussi, il faut vraiment montrer ça, parce que en fait ce peuple est très particulier, cette nation immense est très particulière dans la mesure où c'est peut-être la nation qui mixe le plus aujourd'hui à travers le monde la tradition et le fait d'être totalement actuel.
Tu parles des Cree là?
Non, je parle de l'ensemble du peuple indien.
D'accord.
Je parle de l'ensemble du peuple indien.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on est vraiment très surpris de la façon dont les Indiens aujourd'hui sont malgré tout, influent sur tout un tas de choses au niveau du système, à savoir médecine, à savoir maintenant que tout le monde parle du réchauffement de la planète, c'était dit dans les prophéties il y a bien longtemps. Donc tout le monde est quand même découvre que bon, il y avait une espèce de sagesse. Donc il y a ce côté très ancestral, mais en même temps qui est totalement actuel.
Oui, bien sûr, ah oui, complètement. Surtout, j'allais dire, surtout depuis un certain 4 novembre 2008, par exemple.
Oui, tout à fait.
Encore plus actuel par rapport à la planète. Je crois qu'il y avait quand même un des acteurs qui manquait et ça va peut-être avancer maintenant. Mais ça, c'est un autre débat. On entre sur un territoire, on va dire, plus politique. Quoique tout est politique, hein, si on réfléchit bien. Il y a une question que je voulais te poser par rapport au choix artistique, parce qu'on arrive à un triple album. C'est vrai que c'est déjà énorme, mais on a 48 titres, 48 morceaux qui proviennent, tu l'as dit, de plus de 100 150 CD, c'est-à-dire que tu as dû écouter plus de 1500 morceaux en tout.
Écouter beaucoup de morceaux, oui.
Ouais. Comment s'est fait le choix? Est-ce que tu as été seul d'abord à présider à ce choix de titres?
Alors, sur tous les titres que des albums que j'ai rapportés, Philippe Langlois m'a laissé maître de choisir les titres et de créer un petit peu justement les univers, à savoir CD1, CD2, CD3 qui ont... Tous les trois une histoire différente.
Une spécificité.
Le CD1 étant plus orienté sur les traditions, à savoir le rythme des battements du cœur, le respect par rapport à la nature. Le CD2 est beaucoup plus politique, avec des gens beaucoup plus plus engagés, des gens comme Matonanji d'Indigenous, ou par moment même le Four Ancestors de Kiss Sekola qui introduit la partie 2. C'est quand même quelque chose de très tribal, assez dur. Et puis le CD3, lui, est un CD qui est beaucoup plus orienté vers Cocopelli, c'est un peu plus de fraîcheur, c'est-à-dire c'est le dieu qui vient avec sa flûte et puis qui réveille le peuple des ténèbres. C'est-à-dire qu'on était dans le peuple des ténèbres et tout dans la partie des ténèbres, et tout d'un coup Cocopelli vient et joue la flûte et effectivement la lumière arrive. Alors ça, c'est les trois CD ont été basés là-dessus. Moi je suis descendu mixer dans le sud chez notre ami Doumé avec qui on travaille, et entre-temps Philippe lui avait reçu d'autres morceaux d'artistes que moi j'avais pas rencontré, qui avait été envoyé toujours par Purafé et également Hélène Bambery. Mmh. Et donc on a refait encore un choix commun lorsque je suis rentré, et finalement après 5 mix, on a obtenu ce qui est aujourd'hui dans le triple album.
Ça va être une folie de redistribuer les royalties à chacun d'entre eux. Il y a plus de 30 artistes.
Ouais, c'est très compliqué.
C'est très compliqué.
Plus que les trois quarts ont pas, comme je disais tout à l'heure, ont pas d'agent ou autre. Donc
c'est
marrant le rapport au business, parce qu'il y a beaucoup de gens à qui on envoie des mails pour dire ben voilà, on a besoin de coordonnées bancaires et autres, et les mails reviennent pas, ou reviennent,
mais reviennent sans
reviennent
adresse,
incomplets, ouais. Ou autre. Mais bon, ce qui a été fait, si tu veux, ce qui a été décidé par Philippe et qui me paraît vraiment être une super idée et tout à fait équitable, c'est que y a une avance qui est faite symbolique par rapport à chaque titre qui est utilisé, par rapport à la contribution au projet. Et plus il y aura d'albums vendus, et bien plus chaque musicien recevra une partie des royautés.
Voilà, donc il y aura un intéressement bien
voilà,
entendu.
Tout à fait. Donc à partir du moment où effectivement ça va plus avant, et plus chaque musicien touchera. Mais si tu veux, le but, bien sûr, le but est que les musiciens puissent être rétribués par rapport à leur travail, c'est sûr, mais le but qui était vraiment à atteindre, et moi ce qu'on m'a dit surtout quand j'étais en territoire, c'est, s'il te plaît, révèle aux gens qu'on n'est pas enfermé dans des tipis avec des plumes, qu'on en a marre d'être enfermé dans ces clichés-là, c'est vraiment compliqué, et on voudrait bien que les gens découvrent ce qu'on est vraiment. Si tu arrives déjà à faire passer ça, on aura déjà monté une marche.
Et peut-être aussi à donner le goût du voyage pour certains, même parmi ceux qui nous écoutent d'ailleurs dans Sweet Home Chicago actuellement. Guy, j'ai lu quelque part, et tu en as parlé tout à l'heure au début de l'interview, ce projet aura une suite cinématographique dans les mois à venir avec une sorte de road movie de 52 minutes. C'est déjà monté, c'est déjà prêt?
C'est pas encore monté, ça. Ouais. Parce que tu sais, alors là, c'est encore une autre partie du travail pour arriver à monter. Je suis rentré, moi, en fait, j'ai filmé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je me suis aperçu en rentrant que finalement, j'avais pratiquement entre 70 et 80 heures de film.
70-80 heures de rush.
Voilà, de rush. Alors tu te dis...
Et tu as tout revisionné depuis.
Tu te dis pour dérocher, bon, c'est quand même... En plus, moi, comme c'était mon premier voyage avec une caméra, j'ai rien regardé de ce que j'ai filmé. Donc quand je suis rentré, je me suis dit, il n'y aura pas forcément... Mes sujets, je les connais, les gens que j'ai rencontrés, l'émotion, les dialogues avec les gens, je sais que tout ça était impeccable. Mais la qualité technique, j'y croyais pas. Quand on a dérushé avec Jean-Pierre Bruno, je me suis aperçu, on s'est aperçu...
C'était exploitable.
Il y avait, pratiquement 60% de qualité. Donc on n'a pas encore monté, mais il faut savoir que le film de 52 minutes sera monté autour des trois petits reportages qui sont disponibles à la fin des CD.
Qui figurent à la fin des CD. Il y a donc Aaron White, Chris Cicola et puis M-Girl. Voilà, à signaler pour les gens qui vont acquérir cet album. Vous allez avoir en plus presque 30 minutes de film. Une idée folle comme ça qui me vient au fil de l'interview. Moi, je pense notamment à la démarche d'un certain Martin Scorsese, chaise qu'il a fait autour du blues, et puis Clint Eastwood, enfin il y a des gens quand même aux États-Unis qui se sont intéressés au blues, au jazz et aux musiques aux musiques vivantes et aux musiques on va dire des racines. Est-ce que tu penses pas que, je sais pas, c'est une idée en l'air, de te rapprocher de gens comme ça? Est-ce que ça pourrait pas aider du côté de Hollywood par exemple?
Déjà, premièrement, j'ai pas les contacts pour proposer ça. Mais par contre, c'est vrai que l'idée m'a traversé l'esprit de me rapprocher du Smithsonian Institute lorsque effectivement ce film serait monté, ou même de montrer cette compilation au Smithsonian Institute, parce que Iggy Pop disait dans une interview il y a quelques temps là que on arrive au stade un petit peu des civilisations qui s'écroulent, et les hommes un jour vont regarder les bulles tomber sur eux et ont perdu la trace et le sens de pourquoi ils sont arrivés là. Et si tu veux, c'est un peu ce que je ressens quand je suis en territoire. C'est-à-dire, par exemple, quand je suis à Grand Coulis avec Jim Boyd, il m'explique comment son grand-père pêchait le saumon avant que les barrages soient montés et autres. Et je dis, mais là, il y a encore, la rivière est immense. Il me dit, non, la rivière, elle fait le quart de ce que c'était avant. Donc j'ai souvent le sentiment, malheureusement, je dis bien malheureusement, de voir des choses que ne verront peut-être pas les gens qui viendront dans deux ou trois générations.
D'où l'intérêt d'en témoigner et puis de peut-être publier ce 52 minutes avec plusieurs suites, je l'espère. Ou peut-être du côté de Arte, je ne sais pas, en France,
il y a plein de petits stades. Écoute, je pense que ça peut intéresser, d'autant plus qu'à mon avis, on a une approche, l'approche de ce film et l'approche de ces documentaires est un peu différente de ce qu'on voit d'habitude. Oui. Parce que si tu veux, il se trouve que bon, on parle d'un milieu musical, mais ce qui est intéressant avant tout, c'est l'homme. C'est la façon dont l'homme se déplace et dont l'homme vit. Et la musique fait partie en fait d'une culture comme la nourriture, les fringues. Donc si tu veux, à un moment, je me suis retrouvé avec ce triple album et ce documentaire. La musique était juste, c'était un support, c'était la façon pour ces gens de s'exprimer. Et c'est pour ça que c'est peut-être la première fois chez Dixie Frog, qui est un CD où il y a autre chose que du blues traditionnel, et qui a du hip-hop ou des choses, parce que je pouvais pas faire une compilation avec uniquement du blues, dans la mesure où dans 80% des territoires, quand tu passes, les jeunes jouent du hip-hop, et encore j'ai pas tout mis, il y avait même des groupes de hardcore ou autre, tu vois.
Oui, à la limite, pourquoi pas. Et c'est vrai que ça nous amène à une autre question par rapport à la distribution. Déjà, est-ce que je pense qu'il est sorti le 26 février, si je me trompe pas.
C'est ça même, oui.
Et donc maintenant on le trouve dans tous les Fnac, Virgin, Megastore. Au niveau de la distribution, il est mis dans les bacs blues, il est mis dans les bacs pop rock.
Il est mis dans les bacs blues. Pourquoi il est mis dans les bacs blues? Parce que Dixie Frog est quand même un des grands labels blues aujourd'hui reste en Europe. Oui. Donc Dixie Frog est identifié comme un label blues. Donc à mon avis, c'était intéressant de trouver ce disque-là dans un bac blues. Mais bon, le fait qu'il y ait Enmore sur la pochette, à mon avis, donne une idée du fait qu'on peut trouver quelque chose d'autre à l'intérieur. Mais comme on en a parlé une fois, toi et moi, hors antenne, il est bien de briser les clivages, parce que la musique, c'est l'expression, t'es heureux, tu chantes un blues happy, t'es triste, la musique, c'est juste l'expression du sentiment des gens. Mm-hmm. Donc, il y a des gens qui vont s'exprimer à travers le blues, et puis il y a des gens qui vont s'exprimer parfaitement à travers la country, le hip-hop. Par exemple, il y a cette idée préconçue qui court que les Indiens n'écoutent pas de country. C'est totalement... Mais
non seulement ils en écoutent, mais ils en jouent. Enfin,
les trois quarts des radios que tu entendais quand les Indiens, les Indiens qui ont aujourd'hui 40 ou 50 ans, quand ils étaient mômes, qu'est-ce qu'ils écoutaient? Ils écoutaient Hank Williams, George Jones.
Mais ils écoutaient ce qui se passe, à la radio.
Ouais, qui jouent de la country music.
Et voilà, ils écoutaient ce qui passe à la radio. On ne peut pas faire autre chose. Et c'est toujours pareil, même en 2009. On écoute ce qu'on vous propose. Et voilà. Par rapport à ça, on aura encore certainement beaucoup de choses à dire. Je crois qu'on va pouvoir peut-être laisser le mot de la fin à Purafé. Je voulais quand même souhaiter un bon début de distribution à cet album, et puis vraiment pousser le bouchon pour que tout le monde aille l'acheter, parce que ce soit blues, country, rock'n'roll, tout ce que contient ce disque, je pense que chacun va y trouver forcément son compte. Et tu l'as dit, les gens parlent avec leur cœur, les gens parlent avec leur âme, et ça, quand on triche pas, on est toujours gagnant. Enfin, ça c'est mon sentiment.
Bien sûr, mais et puis c'est pas un disque, c'est pas vraiment un disque.
T'achètes un concept.
Tu n'achètes pas un disque, t'achètes un voyage. C'est-à-dire tout d'un coup, tu découvres un peuple, un territoire. Si t'as pas forcément $500 à mettre dans un billet d'avion, t'achètes ça, tu t'assois chez toi, tranquille, avec un bon cognac, un bon cigare, t'écoutes ça, tu voyages, tu regardes un peu le bouquin, tu regardes les vidéos, et tout d'un coup, tu as une autre approche, et tu te dis, et à mon avis, dès que t'as $500, t'achètes tout de suite un billet d'avion, et tu vas voir.
C'est clair. Un mot pour terminer, Guy, qu'est-ce que tu pourrais dire pour inciter les gens encore à acquérir ce bel objet, ça va leur faire du bien, c'est ça?
Oui, bien sûr. C'est découvrir quelque chose de nouveau, et c'est surtout se faire une réelle idée de comment fonctionne et comment vit ce peuple aujourd'hui, et surtout également découvrir que toutes les barrières musicales volent en éclats, parce que la musique, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la bonne et de la mauvaise musique, voilà, tout simplement.
Ben oui, il y a la musique.
Et je vois pas pourquoi on pourrait pas écouter Hank Williams, Robert Johnson, Mozart, Motorhead. C'est la musique, à partir du moment où elle est sincère et où elle est et elle représente les sentiments de gens écorché, elle a du sens. Partir du moment où elle est simplement du marketing et où c'est comme de la bouffe achetée, elle a plus de sens.
Bah écoute Guy, c'était une belle conclusion pour cette interview. Je souscris tout à fait, que ce soit au projet et à tes dires. Je te souhaite bonne chance, bon courage déjà, bonne chance bien sûr également à Dixie Frog, et bravo d'avoir supporté ce projet, puis bonne chance pour les ventes, et puis également bon vent pour la suite de tous tes projets.
Merci beaucoup, je vais à CDG demain matin chercher notre ami Wayne Lavallée.
Oui, Wayne Lavallée, on l'écoutait tout à l'heure en tout début d'émission, il va être en promo avec Purafé début de semaine à Paris. C'est ça?
Voilà, exactement. Il y a 4 jours de promotion là, qui est assez intéressante. Et puis moi dans 10 jours je remonte dans mon camion et je vais aller voir ce qui se passe. Je vais partir du sud du Texas et je vais monter jusqu'à l'extrême nord de l'Alberta, voir ce qui se passe dans une ville où j'ai pas encore pu passer parce que j'ai été arrêté par les tempêtes de neige, Thompson. Et bien entendu, il se passera des choses sur la route, et il y aura des gens à rencontrer, fantastiques.
Toujours, toujours.
Beaucoup de beaux souvenirs.
Guy, en toute humilité, je te demanderai, quand tu vas voir Purafé début de semaine prochaine, de lui demander, de lui passer le bonjour de ma part. Elle se souviendra peut-être de ce concert qu'elle avait fait au Souboc en Normandie, un club tout en bois, il y a un an et demi de ça, et on avait, nous, passé un excellent moment avec son guitariste, Danny Godinez, et elle revient quand elle veut. Ça, c'est un message perso.
Eh bien, écoute, je suis sûr que ce sera fait. Marc.
Merci beaucoup, Guy. On va écouter Purafé. Je te souhaite un excellent week-end, et puis bonne suite à tous tes projets. Bravo et merci.
Prenez tous soin de vous, prenez soin de vos familles, et n'oubliez jamais la route, la liberté.
Merci beaucoup, Guy. À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
So...
said whoa.
Together so that we can all rise, all rise.
Yeah.
One love, one heart. Give peace a chance, bien sûr. Clin d'œil à John Lennon, final. Pur raffé, extrait du troisième album de ce triple album, Indian Reservation Blues and More. Merci encore, grand merci à Guy L'America pour cette interview fleuve et passionnante. On aurait vraiment envie de lui emboîter le pas. Et comme il l'a dit, si vous n'avez pas $500, ben, vous contentez d'un cigare, d'un cognac et de ce triple album. Alors, il est en vente au prix vert en ce moment, à la Fnac, 26€. Et puis, je crois qu'il est encore un tout petit peu moins cher sur le site de Dixie Frog, bluesweb.com. Et puis il y en a deux gratuits, hein, deux exemplaires gratuits à gagner. Ben, vous pouvez tenter votre chance jusqu'au 2 mai 2009 sur le site internet de l'émission blues.radio666.com. Vous ne quittez pas, il y aura d'autres cadeaux tout à l'heure au téléphone, 02 31 94 66 66. En attendant, voici un troisième extrait du disque de la semaine. Toujours Dixie Frog, toujours Billy Price et Fred Chapelier. La mixture Billy Price-Fred Chapelier, ça donne aussi Champagne Blues and Pittsburgh Soul.
And you come from the west. I party after the show, and I like to rest. But when I come to play, I bring my horns with me. And when I play my rock and roll, it's just my boys and me. They mean in both our neighborhoods. It gives me a thrill to cross that great divide, across the ocean, over to the other side. After Pat and Damien play the blues, Dave, Jimmy, Steve and Paul spread the soulful news. Don't forget the horns, Eric, Rick and Joe. We're here tonight.
Superbe guitare de Fred Chapelier, avec le chant de Fred Chapelier, Billy Price, donc sur cet album Night Work, dont deux exemplaires sont à gagner sur le site internet de l'émission blues.radio666.com. Et là tout de suite, maintenant, on va vous faire écouter un titre de Brian Lee, extrait de son dernier album en date 2007, Katrina Was Her Name. Non, sans vous rappeler que c'est J-3, à savoir que Brian Lee va fouler la scène du Sous-Bock mardi prochain à partir de 20h30. Ce sera New Lineup qui va ouvrir avant le groupe de Rouen qui a gagné le dernier tremplin à la traverse à Cléon en novembre 2008. Et puis ensuite Brian Lee pour deux gros sets. Brian Lee qui nous vient de la Nouvelle-Orléans. Si vous voulez une place de concert pour ce concert de mardi, pour cette soirée de mardi 17 mars au Souboc à partir de 20h30, vous téléphonez là tout de suite maintenant au 02 31 94 66 66. Brian Lee.
We got a whole lot of socket to me. Look here, baby. Flatfoot Sam got him an automobile. No money down, it was a real good deal. He didn't want to work, just ride around town. Your finance company put his feet on the ground. Flatfoot Sam, he's always in a jam. Flatfoot Sam stole him a $10 bill. He told the judge he did it for a thrill. He got 6 days and a suspended fine. Thank you, judge, for being so kind. Flatfoot Sam, he's always in a jam. Well, Flatfoot Sam went and got him a job. Very first day, the place was rocked. The cats got away and they couldn't be found. They took old Sam and they tore him down. Flatfoot Sam, he's always in a jam. Sam in a chuckle-luck game. The dice got switched and Sam got blamed. He grabbed his gun, he shot out the lights. Hey, everybody better run for your life. Flatfoot Sam's always in a jam. Flatfoot Sam, when he went on a spree, he married a woman that weighed 603. She spent all his money, that was a plan. Next thing you know, she got another man. Flatfoot Sam,
Flatfoot Sam, donc extrait de cet album Katrina Was Her Name de Monsieur Brian Lee. Brian Lee vous attend au mardi prochain. Vous pouvez encore tenter votre chance. Pardon, sur internet, blues.radio666 pour gagner une place. Et puis sinon, vous venez à partir de 19h. Hein, on ouvre à 19h. Et puis il y a soirée de jambalaya également. À manger, voilà, pour ceux qui réservent. Voilà, c'est au Souboc, c'est à Coville, c'est dans le triangle Caen, Falaise, Vire. Et puis on commence à connaître hein, dans l'émission, bien sûr. On aura d'autres dates blues à vous proposer, mais ça sera pour la semaine prochaine, parce que là, il me reste quelques minutes seulement pour vous gorger de nouveautés, dont par exemple ce Magic Slim. Écoutez ça. Me Love You Baby. C'est donc Magic Slim, vous l'avez reconnu bien sûr au chant et à la guitare. C'est son dernier album qui s'appelle Midnight Blues, qui vient de sortir chez Blind Pig Records, avec John McDonald à la deuxième guitare, Danny O'Connor à la basse et Dave Sims à la batterie. Et écoutez un petit peu la liste des invités, on retrouve James Cotton, Little Ed Williams, Lonnie Brooks, Elvin Bishop, Gene Barge, Don Tenuto, Terry Ogolini et Otis Clay. Un album produit par Nick Moss. Voilà, au chapitre des nouveautés, je vous propose également un disque sorti en 2004. Et oui, mais il vient seulement d'arriver dans nos bacs. Oh, il y a quelques semaines déjà, ça fait un moment que j'aurais dû vous le proposer. Daniel Lemieux donc est au chant, et puis Brian Edgar est au dobro, à la guitare et au banjo. Le groupe s'appelle Jitterbug Swing. Le disque, c'est What's Gonna Glove Your Hand. Vous allez forcément trouver un gant à mettre autour de votre main, surtout si vous aimez Robert Johnson, bien sûr, puisque vous écoutez Sweet Home Chicago. Ça s'appelle Hard Time Killing Floor. Canadien, le groupe s'appelle Jitterbug Swing, et puis on vient d'entendre leur magnifique reprise de Robert Johnson, Hard Time Killing Floor. Robert Johnson est un sujet du bac, hein, on peut dire, pour bon nombre de bluesmen, et il y en a pas mal qui s'y sont cassés les dents. Moi je trouve que ça c'est assez réussi quand même. Ça nous vient du Canada, et je crois bien qu'il est question qu'ils viennent nous rendre visite en France. On va vous en dire davantage dans les semaines à venir. En attendant, voici le dernier album de Johannes Hofner. Si vous êtes un fidèle de Sweet Home Chicago, vous vous souvenez peut-être de son passage en solo dans l'émission, c'était en juin dernier, à l'occasion de son passage au Sous-Bloc en première partie de Big Brazos. Sachez que son nouvel album est distribué un petit peu partout, Fnac, etc. Et on peut retrouver Johannes Hofner en concert un peu partout également, mais aussi et surtout pour ce qui concerne la région. Le 2 mai prochain, ce sera en première partie d'un groupe qui s'appelle Dimav, un groupe qui est que je porte beaucoup dans mon cœur également. Je trouve que ce sont des gens, un petit peu à l'image de ce que disait Guy l'Américain tout à l'heure, des gens qui ont une authenticité, une foi et une âme absolument inébranlable. Johannes Hoffner n'est pas amérindien, il est français. Il n'a pas la peau rouge ni la peau noire, il a la peau blanche, mais il sait faire ce genre de choses également. L'album s'appelle One Song, One Take, et voici Over. Il y a du Neil Young dans cet homme-là, croyez-moi. Johannes Hoffner, c'est son dernier album, nouvel album qui s'appelle One Song, One Take, qui vient de sortir avec le titre Over. On poursuit avec un titre que je voudrais dédicacer spécialement à mon ami Raphaël, qui, je pensais pas faire de la radio jeudi dernier, ici, dans cette même antenne, juste pour présenter le week-end au Soubok. Ben voilà, Rafa, de Jazzy Calment, hein, tous les jeudis soirs. Non, un jeudi sur deux, je crois, maintenant. Je te dédie le morceau qui vient. Écoute ça et je te dirai après de qui il s'agit. Thank you. Voilà, c'est 100% européen, hein. Ça a été composé en Irlande, hein, vous en doutez bien, par un certain Tommy Potts, mais c'est ici interprété par deux musiciens allemands qui s'appellent respectivement Manfred Leuchter et Jan Melrose, qui tiennent donc l'accordéon et la guitare sur d'autres morceaux, mais ici bien sûr de la flûte. Donc c'est un extrait de l'album de Manfred Leuchter et Jan Melrose qui s'appelle tout simplement Vis-à-vis, et ça a été édité par Acoustic Music Records. Voilà, le temps presse, c'est vrai qu'il nous reste peu de temps maintenant dans ce 544e Sweet Home Chicago. Je ne saurais trop vous recommander de continuer à mettre une bonne croix blanche sur votre date de mardi prochain. Hein. Mardi, vous ne répondez pas au téléphone, vous ne prévoyez pas de soirée ciné ni télé. Vous allez au Subok, ça ouvre à 19h, on mange de la jambalaya, et à 20h30, il y aura New Lineup. Et ensuite, Brian Lee, voilà, la grosse soirée blues du mois de mars, c'est mardi qui vient, c'est dans 3 jours. Donc, on vous y attend, mardi 17 mars, c'est prévu, c'est promis. On termine avec une nouveauté, là encore. Il s'agit de Monsieur Rick Moore, extrait d'un tout nouvel album, bien sûr, Better Off With The Blues. Donc voici Good Man Gone Bad, Rick Moore. Je vous la souhaite bien belle et rendez-vous samedi prochain à partir de 13h. Salut, bye bye. Gone bad.